Merci d'écouter RFI. Il est 8h30 à Brazzaville et Paris, 10h30 à Kampala. Et tout de suite, c'est le journal présenté par Arthur Ponchelet.
Et à la une, la corruption et le vol gangrènent nos institutions. Les mots de Martin Fayoulou hier, l'opposant, candidat malheureux à la dernière présidentielle en RDC, accuse le régime de Félix Tshisekedi de mauvaise gestion. On l'entendra dès le début de ce journal. Au Tchad, deux jours après les élections législatives, provinciales et communales, la colère d'une partie de l'opposition, le RNDT, le réveil de l'ancien Premier ministre Albert Païmi Padaké, accuse le MPS au pouvoir de fraude électorale. Il refuse la compromission, mais se dit prêt à des compromis. Au Gabon, Albert Ondo Ossa a pris la parole hier. Celui qui se considère toujours comme le vainqueur de la présidentielle de 2023 a notamment évoqué la possibilité de négocier avec Brice Clotaire-Oligui Nguema. Au sommaire également, on sera en Guinée où la date butoir pour la fin de la transition ne sera finalement pas respectée. Et puis en Algérie, où le président Tebboune a pris la parole dimanche, et vous l'entendrez, il ne mâche pas ses mots contre la France. Il accuse le régime de Félix Tshisekedi de mauvaise gestion et de complaisance face à la misère des Congolais. En RDC, Martin Fayoulou ne mâche pas ses mots en cette fin d'année. Le candidat malheureux aux présidentielles de 2018 et 2023 a dressé hier son bilan pour 2024 et il accuse le pouvoir de vider les caisses de l'État. À Kinshasa, la correspondance de Pascal Mouligoua.
Le bilan est accablant. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat qui s'impose.
Martin Fayoulou est catégorique qui appelle la population à s'indigner face à ce qu'il qualifie des voleurs en col blanc tapis dans les institutions.
La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Des milliards de dollars sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. Les ressources du peuple sont dilapidées et les faits de corruption sont tellement légions que beaucoup ne s'en émeuvent plus.
La sécurité est inexistante au pays, l'armée étant abandonnée par le pouvoir, affirme l'opposant. Il donne pour exemple l'occupation des 130 localités par les rebelles du M23, des exactions des groupes armés s'exacerbent dans l'est du pays, les banditismes urbains prospèrent, les gangs terrorisent les villes, regrette Martin Fayoulou.
Le sujet est traité avec une légèreté déconcertante et les champagnes coulent à flot au sommet d'un État failli et faible.
L'opposant dresse un constat tout aussi sévère dans les institutions publiques.
La pauvreté explose. L'éducation et la santé s'effrontent. Les grèves des fonctionnaires, des médecins et des enseignants se multiplient. La gratuité de l'enseignement demeure un mirage. Le chômage est à son comble.
Les leaders de la coalition Lamuka ne transigent pas sur le changement de la constitution envisagé par les régimes en place. Pour lui, je cite, « un régime incompétent peut changer la constitution 100 fois ». Les mêmes mots produiront les mêmes effets. Pascal Mouligoua, Kinshasa. RFI.
Toujours en RDC, dans l'Est, au moins 23 militaires des FARDC, les forces armées congolaises, comparaissaient hier devant le tribunal militaire de garnison de Butembo. D'après l'armée, ils sont poursuivis pour violation des consignes, désertion, fuite devant l'ennemi, dissimulation de munitions, vol et tentative de viol. Ils ont été arrêtés au début du mois. Le colonel Mac Azoukei, porte-parole de la région, a indiqué qu'il s'agissait d'un procès, je cite, pédagogique et exemplaire. Deux jours après les élections législatives, municipales et locales au Tchad, l'ANJ, l'Agence nationale de gestion des élections, n'a pas encore donné de chiffres de participation ni de résultats officiels. On votait ce week-end dans le pays, triple scrutin pour mettre fin à 3 ans de transition. Et désormais, l'opposition accuse le MPS, le parti de l'ancien président Déby, de fraude électorale. Anne Jamena, correspondance de Victor Moria.
Ce sont des faits, disent-ils, qui leur sont remontés du terrain. Le RNDT Le Réveil de l'ancien Premier ministre Albert Païmi Padaké accuse l'actuel parti au pouvoir, le MPS, d'avoir réalisé de nombreuses fraudes le jour du vote. Clément Sianka, porte-parole du RNDT.
Intimidation, fraude, emprisonnement, bureau de vote sans PV. Un peu partout dans le Tchad, on a ce mécanisme qui est mis en place par le MPS pour se soustraire de la volonté du peuple, du vote du peuple, parce qu'ils savent que si il s'expose de façon légale, de façon transparente au peuple, le peuple va les sanctionner.
Au MPS, on récuse l'organisation des fraudes et on promet la transparence. Aziz Mahamat Saleh, ministre des Infrastructures et du Désenclavement, est le rapporteur national de la campagne du parti.
Il peut y avoir des situations isolées dans lesquelles il y a eu peut-être du zèle ou il y a eu peut-être des candidats qui auraient mal agi. Ça, c'est partout, pas seulement chez nous. S'il y a une situation où il y a un risque de fraude, le MPS appelle à ce que ça soit annulé dans ces zones-là pour que ce soit repris conformément à la loi.
Lorsque les résultats définitifs seront publiés par l'ANJ, le RNDT annonce déjà vouloir saisir la Cour constitutionnelle et la Cour suprême pour demander des dizaines d'annulations. Victor Moria, N'Djamena, RFI.
Au Gabon, Albert Ondo-Ossa va-t-il occuper des fonctions dans le régime militaire dirigé par Brice Clotaire-Oligui Nguema ? C'est la question qui revient dans la bouche de plusieurs Gabonais, notamment depuis une rencontre le 5 décembre entre le président de la transition et celui qui se considère toujours comme le vainqueur de la présidentielle de 2023. Élection dont les résultats avaient été annulés après le coup d'État du 31 août 2023. Hier, lors d'une conférence de presse, Albert Ondo-Ossa a refusé toute compromission, mais reste ouvert aux négociations.
Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a deux forces en présence. Oligui Nguema qui représente la force militaire. Albert Ondo-Ossa qui représente la légitimité populaire. Le président élu et le président de la transition putschiste. Voilà les deux forces. Oligui Nguema compte sur son armée. C'est ce qu'il a de mieux. Albert Ondo-Ossa compte sur le peuple gabonais, à qui il a présenté un projet, un programme, auquel la population a adhéré. Alors, je ne fais pas dans la compromission. Je peux faire des concessions, des compromis. Lorsque le chef de l'État, le président de la transition m'appelle, je ne vois pas pourquoi je dirais non. Et je lui ai répété que si vous m'appellerez 100 fois, je viendrai.
Propos recueillis par notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Gaumin. À l'écoute de RFI, il est 7h36 à Conakry. La Guinée, qui devait initialement revenir à l'ordre constitutionnel ce soir, à minuit, Mamadi Doumbouya et le CNRD s'y étaient engagés auprès de la CEDEAO, mais finalement, il y a 3 semaines, le gouvernement a confirmé que cette date butoir ne serait pas respectée. Aucune nouvelle échéance n'a depuis été annoncée. L'opposition et la société civile réunies au sein de la plateforme des forces vives, elles sont claires, elles ne reconnaîtront plus les autorités transitoires à partir de ce soir. État des lieux de la transition en Guinée avec Sidi Ansané.
Peu après sa nomination en mars dernier, le Premier ministre Bahoury annonçait sur RFI que la durée de la transition dépendait des actions sur le terrain, avant de souligner que 2025 était une bonne période pour couronner l'ensemble du processus. Mais alors que s'ouvre la nouvelle année, aucune des 10 étapes majeures du chronogramme de la transition ne sont achevées. Selon député, le recensement administratif à vocation d'état civil, toujours en cours, et l'élaboration de la nouvelle constitution, bloquée au stade d'avant-projet depuis 3 mois, et ce, malgré l'engagement du président de transition Mamadi Doumbouya de tenir le référendum avant 2025. Cette année, à la veille du dernier sommet de l'OIF, le ministre des Affaires étrangères Maurice Nda Kouyaté avait assuré au Conseil permanent de la francophonie que toutes les élections en Guinée se tiendraient dans l'année qui commence, mais aucune date n'a été précisée, alors que les partis d'opposition et le mouvement citoyen FNDC annoncent une série de manifestations à Conakry à partir de lundi prochain.
Sidi Yansané est toujours en Guinée. L'opposant Alioubaa a passé sa première nuit en prison. Le président du Modèle était devant la justice hier, poursuivi pour offense au chef de l'État. Il a rejeté toutes les accusations à son encontre. Son parti dénonce un abus flagrant de pouvoir et, je cite, une stratégie systématique d'intimidation et de répression visant à réduire au silence les voix dissidentes. Fin de citation. Une manifestation violemment réprimée hier au Kenya. La foule, réunie dans les rues de Nairobi, protestait contre la vague d'enlèvement qui frappe le pays depuis plusieurs mois. Rassemblement réprimé donc par la police à coups de gaz lacrymogène. Une 50aine de personnes, dont le sénateur Okia Omtata, ont été arrêtées. Les manifestants accusent les forces de sécurité kenyanes d'être à l'origine de ces disparitions forcées qui ont débuté en même temps que les manifestations anti-gouvernementales cet été. Willy Diallo.
À Nairobi, Mombasa et Eldoret, la foule brandissait des pancartes à l'effigie de certains disparus, appelait à leur libération, ainsi qu'à la fin des enlèvements. Lorsque les policiers ont commencé les tirs de gaz lacrymogène, les manifestants ont refusé de partir et ont chanté l'hymne national. Après les manifestations anti-gouvernement de juin et de juillet, près de 90 personnes ont été portées disparues et plus de la moitié sont encore introuvables aujourd'hui. Depuis le début du mois de décembre, 6 nouvelles disparitions ont été signalées dans le pays. La nouvelle vague d'enlèvement, à l'origine l'origine de la manifestation de ce lundi concerne principalement des jeunes hommes qui ont critiqué le président William Ruto. Deux d'entre eux avaient publié une image générée par intelligence artificielle, dégradante pour le chef de l'État. Si la police kényane nie être impliquée dans les disparitions, vendredi dernier, suite aux déclarations des défenseurs de droits humains et plusieurs figures politiques, le président William Ruto a promis de mettre fin aux enlèvements.
Oui, Lydia Lo. En bref, l'Afrique du Sud vient de nommer un envoyé spécial pour le Mozambique. Sidney Moufamadi, conseiller à la sécurité de Cyril Ramaphosa, doit se rendre prochainement dans le pays avec un objectif, dialoguer avec les parties prenantes et tenter de rétablir le calme. Direction l'Algérie, avant de refermer ce journal, où Abdelmadjid Tebboune ne mâche pas ses mots contre la France. Le président algérien a prononcé un discours dimanche devant les deux chambres du Parlement. Les Français doivent admettre qu'ils ont tué et massacré les Algériens, a-t-il déclaré. Revenons sur les questions mémorielles durant la période coloniale et la guerre d'indépendance en Algérie. Il a également appelé la France à nettoyer les sites nucléaires dans le sud algérien. Des déclarations qui, pour Pierre Vermeyran, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'Afrique du Nord, n'arrangent pas l'entente entre la France et l'Algérie.
C'est un discours qui reprend les grandes thématiques qui ont été conçues par Bouteflika et par ses proches. C'est des discours qu'on n'entendait pas dans les 40 premières années de l'indépendance, mais à la suite de la décennie noire, on a vu émerger ces discours criminalisant la France coloniale, non pas d'une manière, je dirais, ordinaire, en référence aux guerres, effectivement, aux épisodes les plus tragiques de cette période, mais en allant chercher la thématique génocidaire. Donc tout ça, bien sûr, n'avait jamais été repris par Tebboune, mais c'est fait. Dans un contexte de crise, ce n'est pas très étonnant, mais évidemment, c'est pas sur cette base-là qu'une quelconque entente ou réconciliation est possible. Et d'ailleurs, il ne semble pas, quoi qu'en dise le président Tebboune, que ce soit désiré. De toute manière, le président Macron, pendant 7 ans, a essayé de faire ce qui était en son pouvoir avec une bonne volonté manifeste et ça n'a pas été payé de retour, d'où effectivement son changement de politique extérieure.
Propos recueillis par Ouda Ibrahim. Voilà pour le journal. Vous restez avec nous. RFI Matin, suite et fin, c'est avec André.